Bonsoir à tous. Alors, ce soir, nous allons parler de l'œuvre de l'Esprit parmi les hommes du Nouveau Testament. Alors bon, j'espère que vous êtes bien réveillés, hein, parce que, comme nous l'a rappelé Dorian la dernière fois, la Nouvelle Alliance, c'est l'Alliance de l'Esprit. Donc voilà, soyez bien réveillés, je vais essayer d'être un peu plus dynamique, mais voilà, il faut vous accrocher, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, voilà, voici les différents noms de l'Esprit de Dieu dans le Nouveau Testament. On commence par là. Alors, donc il est appelé l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, le Saint-Esprit de la promesse, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, l'huile de joie, l'Esprit de la grâce, l'Esprit de gloire, le Consolateur. Et je trouve très intéressant de voir qu'il est appelé aussi l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, l'Esprit de son Fils et l'Esprit de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, il existe une relation intime entre l'Esprit de Dieu et le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit a œuvré puissamment dans la vie du Seigneur Jésus, depuis sa conception jusqu'à sa résurrection et son ascension à la droite du Père. Il nous est dit qu'il a été conçu par l'action du Saint-Esprit. Nous avons vu la dernière fois que les rois, les sacrificateurs et les prophètes étaient oints d'huile, l'huile étant le symbole du Saint-Esprit, et ce qui indiquait qu'ils avaient été choisis par Dieu et pour le servir et qu'ils étaient revêtus de sa puissance pour accomplir leur mission. Jésus, en tant que prophète, sacrificateur et roi, a également été oint du Saint-Esprit le jour de son baptême. Voilà ce qui nous est dit. Dans Luc, au chapitre 3, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » On voit là que Jésus est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et on remarque que c'est à ce moment-là qu'il est reconnu publiquement par Dieu comme étant son Fils et qu'il reçoit aussi ce témoignage d'amour, aussi de faveur, de confiance de son Père. Jésus est à ce moment-là rempli de l'amour de son Père. L'apôtre Pierre, voilà ce que nous dit, ce que dit l'apôtre Pierre à Corneille, à toutes les personnes qui étaient dans la maison à ce moment-là, donc acte 10, verset 37-38. « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus lui-même, hein, dans le temple, reprendra ses paroles prophétiques d'Ésaïe, hein, qui le concernent. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus, le Fils de Dieu, a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu le Père l'a appelé.
Amen.
Et nous remarquons que c'est seulement après cet événement que son ministère public d'enseignement, de guérison, de libération, de proclamation du royaume de Dieu a commencé. Et c'est le Saint-Esprit lui a donné la force d'aller jusqu'au bout de sa mission, c'est-à-dire jusqu'à mourir sur la croix pour le salut de l'humanité. Eh bien, nous allons voir maintenant que tout homme, en fait, est appelé lui aussi à vivre avec le Saint-Esprit et sous sa conduite. Alors, on va commencer par ce passage avec lequel j'ai conclu la dernière fois. Jésus, à la fin de sa mission sur terre, juste avant sa crucifixion, et voilà ce qu'il dit à ses disciples. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je vais compléter par ce passage. Donc Jean 16, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Amen. Donc là, il y a beaucoup d'informations importantes dans ces passages. Première information, c'est que le Saint-Esprit ici est appelé un autre consolateur. Alors le consolateur en grec, c'est le mot parakletos, hein, qui est aussi traduit par avocat. Le parakletos, c'est celui qui est convoqué, qui est appelé aux côtés d'un autre pour plaider sa cause, pour plaider avec lui. Et il y a aussi cette notion de défenseur aussi. Voilà, on trouve le mot parakletos dans la première... dans 1 Jean, chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, parakletos, auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc ici, c'est Jésus, parakletos, hein, c'est Jésus l'avocat. Eh bien, le Saint-Esprit est un autre avocat qui a été mandaté par le Père et le Fils pour poursuivre l'œuvre de Jésus auprès des hommes sur la terre. Il est aussi un intercesseur. Dans Romains chapitre 8, versets 26-27, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Je crois qu'il est bon de savoir que le Saint-Esprit est celui qui nous soutient dans la prière. Il prie en nous, il prie avec nous, il intercède avec nous. Et je crois que c'est important parce que parfois, je pense que ça vous est tous arrivé, on ne sait pas parfois comment prier. Et en fait, par l'intercession du Saint-Esprit, eh bien, de savoir que nous restons connectés à Dieu, dans ces moments-là, je trouve que c'est très important. Il y a aussi cette notion, c'est un défenseur. On va lire dans Marc, au chapitre 13, versets 9 à 11. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples. « Quant à vous, faites attention à vous-même. On vous traduira devant les tribunaux des Juifs, on vous fouettera dans les synagogues. » Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour leur apporter un témoignage. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz. Mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Alors bien sûr, vous me direz, c'est un contexte bien particulier, hein, on parle de, voilà, quand vous êtes dans les synagogues, etc. Mais je trouve qu'il est intéressant quand même de voir que le Saint-Esprit est capable d'assurer notre défense, même devant les autorités. Alors au travers de ces passages, en fait, on voit que le Saint-Esprit, dans sa nature même, est celui qui soutient, qui protège, qui réconforte, qui défend. Alors, comme nous l'avons lu aussi, l'Esprit de Dieu est appelé aussi donc l'Esprit de vérité, parce qu'un de ses rôles est de nous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui convainc les hommes en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, comme on l'a entendu ces dernières semaines, comme il nous a été rappelé, les hommes qui sont loin de Dieu et qui n'ont pas reçu Jésus comme leur sauveur personnel sont spirituellement morts dans leur péché. Mais dans son grand amour, le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit pour les convaincre de leur état de pécheur, mais aussi de justice et de jugement. En fait, la conviction de péché, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est une prise de conscience personnelle du péché et le sentiment de se sentir coupable devant Dieu. Je me souviens qu'un jour, Gérald nous a dit que lorsque le Saint-Esprit nous convainc de péché, la culpabilité est telle qu'on a l'impression d'avoir tué Jésus. Eh bien, en fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé, pas l'impression d'avoir tué Jésus. Mais quand j'ai été convaincue de péché, je me souviens que ce jour-là, je me sentais tellement sale et tellement coupable que je disais à Christophe que j'avais l'impression d'avoir tué ma mère. Et j'avais beau essayer de me raisonner, je n'y arrivais pas. J'ai même essayé de minimiser la situation, je n'y arrivais pas. Et il a donc fallu, enfin là je me suis trouvée dans le besoin d'appeler mon pasteur de l'époque au téléphone. Bon, je n'étais pas très très proche de lui, hein. On ne se connaissait pas très bien. Il fallait vraiment que je sois mal pour ça, mais je l'ai appelé. Et comme un bon pasteur, il a su me conduire, bien m'accompagner jusqu'à la repentance. Et après, effectivement, j'étais en paix. Et c'était vraiment le signe pour moi que le Seigneur m'avait pardonné. En fait, je crois qu'il est important de savoir, je pense que on est beaucoup à le savoir, mais qu'on ne peut pas se convaincre de péché nous-mêmes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas convaincre les autres non plus. Parce que la conviction de péché, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que les hommes ont expérimenté le jour de la Pentecôte après avoir entendu le message de l'Évangile annoncé par Pierre. Voilà ce qui nous est dit dans les Actes. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il est important vraiment de savoir que sans conviction de péché, il n'y a pas de repentance. Que sans repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. Que sans pardon, il n'y a pas de vraie conversion, ni d'accès au salut. Je crois que c'est important. C'est vraiment important. Jésus dira dans Luc chapitre 13, « Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Donc en fait, la conviction de péché et la repentance font partie intégrante du processus de salut. Et c'est seulement celui qui va se tourner vers Dieu et lui demander pardon qui sera pardonné. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre au peuple. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit est celui qui conduit l'homme dans toute la, toute la vérité en lui donnant des convictions en ce qui concerne le péché, mais aussi la justice de Christ, hein, son œuvre à la croix et la justification du pécheur à travers sa repentance et sa foi. Et il convainc également l'homme du jugement du monde, parce que Satan, le prince du monde, comme on l'a lu, est déjà jugé. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre en nous. C'est lui qui nous donne ces convictions-là. Le Saint-Esprit est celui qui nous révèle qui est Dieu. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, versets 6 à 11, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit, en fait, qui nous révèle et qui nous révèle Dieu et nous donne de comprendre aussi sa parole. Le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne et nous rappelle les paroles de Christ. Nous l'avons lu. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et là, effectivement, Cédric nous a rappelé dimanche dernier, et c'est très important, qu'il est important d'être à l'écoute de la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse accomplir son œuvre dans notre cœur et réaliser aussi toutes les promesses que Dieu a pour nous. L'importance de l'écoute. Il y a un exemple d'une personne dans la parole de Dieu qui a su écouter la parole de Dieu qui lui était annoncée. Il s'agit de Lydie dans Actes au chapitre 16. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et il nous est dit juste après qu'elle et toute sa famille furent baptisées. Donc c'est important vraiment d'écouter la parole, d'être enseignable, d'écouter la parole de Dieu pour que Dieu puisse agir par son esprit en fait et accomplir en fait tout ce qu'il a en réserve pour nous. Alors si, comme on l'a vu la dernière fois, Dieu donne la vie physique à tout être humain, eh bien, c'est également lui qui nous donne la vie spirituelle.
Amen.
Quand je reçois Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, j'ouvre la porte à son esprit. Le Saint-Esprit va alors venir à la rencontre de mon esprit pour le mettre en vie, comme Jean-Paul le disait dans sa prière tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. Et en fait, Jésus, lors de son échange avec le chef religieux Nicodème, va nous parler de la nouvelle naissance et de la nécessité, de sa nécessité. Voilà ce que nous dit là, l'apôtre Jean. Jésus lui répondit : « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux ? » s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Donc en fait, la nouvelle naissance va nous permettre d'entrer dans une relation vivante avec Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alors, à ce moment-là, le Saint-Esprit va faire sa demeure en nous. Il ne repart pas, le Saint-Esprit. Il fait sa demeure en nous. et il va nous permettre de vivre en communion avec Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Est-ce que nous, je me suis posé la question et je me la pose surtout en ce moment, est-ce qu'on réalise à chaque fois que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel, qui reposait sur Jésus, est maintenant en nous ? Hein, très souvent, je crois qu'on a plus conscience qu'il est à côté de nous qu'en nous. Mais là, il est en nous, c'est encore plus fort. Alors, Paco et Cédric, donc les deux derniers dimanches, nous ont rappelé que la vraie liberté se trouve en Jésus-Christ. Et que c'est son esprit, en fait, qui nous libère de la domination du péché et de la mort, nous permettant de vivre la vie nouvelle, la vie de liberté que Dieu a pour nous. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, comme nous l'a rappelé Cédric, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dans Romains 8, 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, nous sommes libres. Nous sommes libres de vivre selon la volonté de Dieu, parce que nous avons été libérés en fait de cette loi du péché et de la mort en fait. Donc nous pouvons maintenant marcher en nouveauté de vie.
Amen.
Alors le Saint-Esprit est aussi celui qui nous fait aimer les valeurs spirituelles. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Une autre action du Saint-Esprit, c'est qu'il fortifie l'homme dans sa relation avec Christ et lui donne de connaître et de comprendre l'amour de Dieu. Là, j'ai juste mis la référence. Éphésiens 3, versets 14 à 19. Puis quelque chose vraiment de très important, c'est que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce témoignage est essentiel pour entrer dans cette vie nouvelle et accomplir la volonté de Dieu. On l'a lu tout à l'heure, le jour du baptême de Jésus, Dieu, son Père, lui a en fait témoigné tout son amour à ce moment-là et toute sa faveur, toute sa confiance. Et nous avons besoin, nous aussi, et lui a dit, voilà, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons, si Dieu a dit ça à Jésus, combien, à plus forte raison, nous avons besoin que le Saint-Esprit atteste dans notre cœur que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que, voilà, c'est pas juste une théorie, il faut vraiment qu'on en soit convaincu. Le Saint-Esprit est également celui qui nous conduit dans une vie sainte et qui produit en nous le fruit de l'Esprit. L'apôtre Paul nous dit « Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous transforme à l'image de Christ. Il œuvre dans notre cœur et nous transforme progressivement. Ce n'est pas instantané, c'est progressif. Ça aussi, je crois que c'est important de le savoir pour ne pas nous décourager. Il nous transforme progressivement, c'est ce qu'on appelle la sanctification, et il va alors nous donner de porter ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, j'ai dit l'écho, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc comme ça a été beaucoup dit, le fruit de l'esprit, là encore, c'est pas notre œuvre à nous, c'est pas le résultat de nos efforts, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. On n'a pas à produire ce fruit, mais par contre, on a à le porter. Et pour le porter entièrement, il nous faut nous soumettre au Saint-Esprit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit nous enseigne à prier et il intercède avec nous, en notre faveur. Je relis le passage, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et n'oublions pas que la prière que Dieu exauce est celle qui est faite selon la volonté de Dieu, hein, celle qui est inspirée, dirigée par le Saint-Esprit. Une des autres actions du Saint-Esprit, c'est qu'il nous conduit dans la louange et l'action de grâce. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et ainsi va nous permettre d'être ces adorateurs aussi en esprit et en vérité que Dieu recherche. Ça, Gérald nous en a parlé il y a quelques semaines. C'est aussi le Saint-Esprit qui nous accompagne dans notre relation avec Dieu jusqu'à l'adorer. Alors, dans la Nouvelle Alliance, Dieu continue aussi à choisir et appeler des hommes pour le servir. On va le voir ensemble. Et là, eh bien, c'est le rôle du Saint-Esprit que de les choisir et de les appeler. On va lire ce passage dans les Actes. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaan, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Mais les Écritures nous rappellent quand même que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Donc, je l'avais dit la dernière fois, l'apôtre Paul nous le rappelle, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans le même esprit, voici les dernières paroles de Jésus à ses disciples dans l'évangile de Matthieu. Voilà ce que dira Jésus. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'ai envie de dire par le Saint-Esprit, j'ai envie de rajouter. En fait, en tant que disciples de Christ, nous sommes tous appelés à témoigner de Jésus autour de nous et faire à notre tour des disciples. Et je trouve qu'il est bon de savoir que, là encore, le Saint-Esprit nous accompagne et nous guide. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Voilà, c'est ce que l'apôtre Paul et Timothée ont expérimenté durant, j'ai mis, leur campagne d'évangélisation. On va lire ensemble dans Actes au chapitre 16. « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Je trouve que ça paraît très simple comme ça. Hein, on avance. Et puis, à un moment donné, le Saint-Esprit, il nous arrête. Et puis, à un moment donné, c'est quand même Paul. Hein. Paul, il va conclure par ces différentes manifestations de l'Esprit, on va dire. Enfin, il va conclure que, il est appelé à aller, et par cette vision, bien sûr, qu'il est appelé à aller en Macédoine. Macédonie.
Macédoine.
Je trouve que c'est comme ça, ça paraît très simple, et je crois que parfois on se complique peut-être un peu la vie. Voilà ce que Philippe aussi a vécu. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Donc on voit bien que là, le Saint-Esprit est à l'œuvre et qu'il conduit ses disciples dans l'œuvre à laquelle il les a appelés. Alors si l'Esprit de Dieu nous guide, eh bien, il est important aussi de savoir que Dieu nous équipe aussi pour ce service. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là aussi les paroles de l'apôtre Paul. Voilà pourquoi, grâce à Jésus-Christ, je suis fière de mon travail pour Dieu. Car si j'ose parler, c'est seulement de ce que le Christ a accompli par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il l'a fait par mes paroles et mes actes, par sa puissance, mais j'avais envie de rajouter « mais » par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges, c'est-à-dire par la puissance de l'Esprit de Dieu. En fait, pour être ces témoins de la gloire de Dieu, nous avons tous besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et là, c'est ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Là encore, c'est l'expérience que les disciples de Jésus ont fait le jour de la Pentecôte. Ils ont ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Alors ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et aujourd'hui encore, c'est une nécessité pour chaque disciple de Jésus, chaque serviteur de Dieu, de recevoir le baptême du Saint-Esprit, d'être revêtu de la puissance d'en haut, pour être capable d'accomplir les œuvres dans lesquelles Dieu veut nous voir entrer. Et en fait, le baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit ou du Saint-Esprit, c'est également appelé comme ça, c'est le but principal. Son but principal, c'est effectivement de nous rendre capables d'accomplir les œuvres glorieuses de Dieu. Par rapport à cela, je vais vous partager un petit témoignage. Je trouve que c'est très important de relier effectivement le baptême du Saint-Esprit avec le fait d'être rendu capable. Dieu nous équipe en fait pour son œuvre en fait. Et j'ai juste partagé ce témoignage que j'ai vécu. Ça fait plusieurs années maintenant que je suis baptisée du Saint-Esprit. Et je me souviens que à cette période-là, j'entendais beaucoup autour de moi qu'en tant que chrétien, on devait avoir un cœur pour les âmes perdues. Et je l'entendais tellement, et je ne l'avais tellement pas, qu'en fait, ça m'agaçait à la fin d'entendre ça. Et à un moment donné, il y a eu un rassemblement, c'était pas sur Poitiers, on était quelques-uns à nous être rendus à ce rassemblement, et ce jour-là, le prédicateur annonce son thème, et le thème, c'est... l'amour pour les âmes. Et là, je me dis, franchement, je me souviens, je me suis dit, je suis jusque-là pour entendre ça, et voilà, ça, franchement, ça me dérangeait. J'étais là, donc j'ai écouté. C'est important d'écouter. J'ai écouté la parole qui était annoncée. Et en fait, cette personne n'a pas parlé de l'amour des hommes pour les âmes perdues. Mais il a parlé de l'amour de Dieu pour les âmes perdues. Et je sais que l'autre fois, à une réunion de femmes, il y a une sœur qui nous a dit qu'à un moment donné, elle avait été portée par la prédication. Et j'ai vraiment été portée jusqu'au cœur de Dieu. Et j'ai vraiment saisi à ce moment-là tout l'amour que Dieu avait pour les hommes. Et ça m'a vraiment bouleversée. Et à la fin, il y a eu un appel à la prière. Donc, je peux pas dire que je me suis avancée parce que dans ces moments-là, vous savez que quand il y a un appel pour la prière, en fait, tout le monde s'avance. Donc, en fait, moi, j'étais à ma place, je me suis mise juste sur le côté et puis je suis restée là. Donc, personne en particulier a prié pour moi. Mais je me souviens, en fait, que je me suis adressée à Dieu à ce moment-là. Et en fait, ce que je lui disais, c'était j'aimerais tellement avoir ton cœur. J'aimerais tellement avoir, moi aussi. J'aimerais tellement aimer aussi comme toi. Mais je l'ai pas. Mais je m'avance quand même, telle que je suis. Et je crois que je voulais partager ça avec vous parce que je crois que parfois, on pense qu'il faut être qualifié pour être baptisé du Saint-Esprit ou autre chose. Mais en fait, on ne peut pas se qualifier nous-mêmes, encore une fois. Amen. Mais c'est Dieu qui qualifie. Et ce jour-là, j'ai été baptisée du Saint-Esprit à ma place, là, toute seule. C'était entre moi et Dieu. Et voilà, je voulais vous dire parce que quelques semaines après a commencé une œuvre dans l'Église, une œuvre d'évangélisation auprès des femmes en situation de prostitution. Et avec d'autres, j'ai participé aussi pour un temps à cette œuvre-là. Donc pour moi, c'est vraiment lié en fait. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est pas pour se faire plaisir en fait. Non, Dieu nous équipe, c'est pour son œuvre. Amen. C'est pour nous qualifier. Et puis, les Écritures nous disent aussi que le Saint-Esprit nous accorde aussi différents dons à son peuple pour édifier l'Église. On va lire ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Les dons spirituels sont donnés pour le bien de l'Église. Et là, comme on l'a lu, on voit que le Saint-Esprit les distribue à chacun en particulier comme il lui plaît. En fait, ce qui veut dire que s'il est distribué à chacun, ça veut dire qu'on en a au moins reçu un. Vous êtes d'accord? Au moins un. Alors que le Saint-Esprit nous le révèle. Et là encore, ce n'est pas à nous encore de choisir les dons que l'on voudrait exercer. C'est Dieu qui choisit, comme il le veut. Mais par contre, l'apôtre Paul nous précise que nous devons les désirer ardemment. Il nous dit dans les Corinthiens au chapitre 12 et également au chapitre 14, aspirez aux dons les meilleurs. À un moment donné, il va dire aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur tous les dons ce soir. Je sais que Simon et Dorian prendront la suite. Mais par contre, je vais m'arrêter sur le don de prophétie, hein, pour répondre un petit peu. Je vais essayer de répondre à la question de Pascal, même si je ne me souviens plus exactement ce que c'était, mais c'était autour de la prophétie. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient choisis par Dieu pour transmettre à son peuple des messages spécifiques concernant des événements futurs et des jugements à venir. Au travers aussi des prophètes, Dieu reprochait au peuple ses péchés et lui annonçait aussi des événements à venir. Dans le Nouveau Testament, la prophétie est un don spirituel que le Saint-Esprit accorde à certains croyants pour édifier, exhorter et réconforter l'Église. Donc, ce n'est plus la même chose. En fait, la parole qui est apportée, elle est communiquée et inspirée par le Saint-Esprit, mais elle ne prédit pas l'avenir. L'apôtre Paul nous dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Il nous dit également, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Que les autres jugent. Juger, ce n'est pas condamner la personne qui a prophétisé si on n'est pas d'accord avec ce qu'elle dit. Mais juger, c'est le fait de discerner si cette parole qui est communiquée est bien inspirée par l'Esprit de Dieu et pas par l'Esprit humain ou par peut-être d'autres esprits. Esprits, c'est pas au milieu de nous aujourd'hui. Non, mais c'est important de savoir que c'est pas jugé dans le sens de condamner la personne. Et puis, l'apôtre Paul nous dit aussi que les prophéties peuvent concerner aussi les non-croyants qui viennent dans l'Église. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, Pascal. Voilà ce que j'ai trouvé. Ça demande certainement d'être plus approfondi. Hein. Je n'ai pas parlé effectivement du ministère de prophète. Voilà, donc je laisse à Simon et à Dorian le soin de prendre la suite. Pour conclure, je dirais que dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit joue un rôle primordial auprès des hommes. C'est lui qui les attire à Christ, c'est lui qui les conduit dans une relation personnelle, permanente et intime avec Dieu. C'est également lui qui les associe à l'œuvre de Dieu en les revêtant de sa puissance et de son autorité pour les rendre capables de révéler la gloire de Dieu. Et c'est encore lui qui se manifeste dans l'Église au travers de ses dons pour la consoler, pour l'encourager et l'édifier jusqu'au retour de Jésus. Là, ce que je voulais partager avec vous ce soir, Père Céleste, combien nous te sommes reconnaissants. Merci, Père Céleste, de nous avoir envoyé le Saint-Esprit. Tu ne nous as pas laissés seuls, tu as tout prévu et vraiment, Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Tu nous as sauvés, tu as fait de nous tes enfants et tu as mis le Saint-Esprit en nous. Il est en permanence avec nous. Nous voulons vraiment, vraiment le prendre en considération, réaliser qu'en permanence, il est au-dedans de nous et qu'il ne demande qu'à s'exprimer aussi. S'exprimer à nos cœurs et s'exprimer aussi au travers de nous. Alors vraiment, merci de nous le rappeler encore ce soir et vraiment, nous voulons ouvrir vraiment tout grand nos cœurs, nous voulons vraiment ouvrir nos cœurs à ta parole pour que ton esprit puisse agir avec elle et toucher nos cœurs, transformer nos vies, c'est ce que tu veux faire. Puis nous voulons, Seigneur, le laisser plus de place aussi dans nos cœurs, afin d'être à l'écoute aussi, afin de lui laisser la possibilité de nous parler aussi. Et puis de pouvoir aussi être conduit là où tu nous veux, là où tu nous places, où tu as prévu, parce que, oui, Seigneur, nous sommes bien petits par rapport à toute ta gloire, par rapport à tout ce que tu as prévu, par rapport à ton amour, toutes ces œuvres que tu veux accomplir. Mais Seigneur, nous ne voulons pas regarder à nous-mêmes, mais nous voulons garder les yeux fixés sur toi, parce que c'est toi qui qualifie. Alors Seigneur, nous présentons à toi tel que nous sommes. Nous sommes bien imparfaits, bien limités. Mais Seigneur, nous savons, et je crois, Seigneur, je l'expérimente, Seigneur, que tu fais avec ce que nous sommes. Et je te remercie vraiment, Père, de conduire ton peuple, de conduire tes enfants, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun, tu sais exactement ce qu'ils ont besoin de comprendre, Seigneur, de réaliser, de vivre avec toi. Alors je te prie vraiment que le Saint-Esprit puisse aller les chercher, Seigneur Jésus, les conduire vraiment dans ta parole, Seigneur, et leur donner de grandir avec toi et que vraiment nous puissions tous vraiment avoir la joie vraiment de rentrer dans ces œuvres glorieuses, Seigneur, pas juste en parler, mais de véritablement rentrer dans ces œuvres glorieuses que tu as prévues pour nous et accomplir nous aussi, Seigneur Jésus, par ta puissance, eh bien, ces miracles, Seigneur, ces prodiges dont nous parlons, Seigneur, ces guérisons, Seigneur Jésus. Non par nos propres forces, que nous en sommes bien incapables, mais par ton esprit. Alors vraiment, agis au milieu de nous, Seigneur Jésus. Et je sais que ton esprit est présent, Seigneur Jésus, qu'il agit dans nos cœurs, Seigneur, pas pour nous, mais pour ta gloire. Alors vraiment, reçois toute notre reconnaissance ce soir, tout notre amour. Tu es tellement bon, Seigneur, que, Seigneur, nous voulons vraiment nous réfugier dans tes bras, Seigneur Jésus. Reconnaître nos incompétences, Seigneur Jésus. Nos incapacités, Seigneur Jésus. Parce que c'est toi qui élèves, Seigneur Jésus. C'est toi qui qualifie Jésus. Alors merci vraiment, Père, de tout ce que tu vas faire, ce que tu es déjà en train de faire parmi nous, Jésus. Amen. Amen.